Chers fidèles auditeurs et amis de Radio Courtoisie, bonjour, heureux de vous retrouver en cette journée du 16 mars 2026. J'évoque cette date parce que, paradoxalement, et c'est peut-être une chose que vous, dont vous vous souvenez, voici exactement 40 ans, le 16 mars 1986, était élu à l'Assemblée nationale le groupe du Front National Rassemblement National, dont j'ai eu l'honneur d'être membre, et qui compte encore aujourd'hui quelques survivants, parmi lesquels Bruno Gollnisch, notre ami Jean-Claude Martinez, notre ami Christian Beckroot, et quelques autres, mais la plupart, malheureusement, ne nous écoutent que du haut du ciel.
Et vous,
Michel ? Et oui, j'ai été élu, effectivement, à cette date, moi-même, d'ailleurs, étant en réalité un apparenté, puisque j'étais membre du Centre National des Indépendants et Paysans, et j'avais rejoint le groupe du Front National, au même titre, d'ailleurs, que mon ami Édouard-Frédéric Dupont. Alors, le titre de cette émission, il est le suivant. Il est, évidemment, il correspond à l'actualité géopolitique. Le titre de cette émission est le suivant. Notre cher Liban, victime du conflit israélo-iranien. Et pour traiter d'un sujet aussi complexe, aussi compliqué, lorsqu'on parle de l'Orient, pense à l'adjectif compliqué, je ne citerai pas son auteur. Eh bien, pour traiter d'un tel sujet, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio de Radio Courtoisie, par ordre alphabétique, le colonel Alain Corvez, directeur d'un cabinet de conseil en stratégie internationale, maître Elie Atem, avocat libanais, docteur en droit, le colonel Jacques Hogard, légionnaire, ancien officier des forces spéciales, le lieutenant-colonel Jean Larmande, secrétaire général de la Société française de géopolitique, et puis bien sûr, toujours dans ce studio, vous le savez, mon invité permanent, vous le connaissez, il s'appelle Jean de La Fontaine. Et Jean de La Fontaine nous offre aujourd'hui une fable, en liaison évidemment avec ce thème, et cette fable, c'est la fable 8 du livre 7, elle s'intitule « Les vautours et les pigeons », et je vous en donne lecture. C'est une fable un peu difficile. Mars autrefois mit tout l'air en émeute. Certains sujets fit naître la dispute chez les oiseaux. Non ceux que le printemps mène à sa cour et qui, sous la feuillée, par leur exemple et leur son éclatant, font que Vénus est en nous réveillée, ni ceux encore que la mer d'amour met à son char, mais le peuple vautour au bec retors. À la tranchante serre, pour un chien mort se fit, dit-on, la guerre. Il plut du sang, je n'exagère point. Si je voulais compter de point en point tout le détail, je manquerais d'haleine. Main chef périt, main héros expira, et sur son roc Prométhée espéra de voir bientôt une fin à sa peine. C'était plaisir d'observer leurs efforts, c'était pitié de voir tomber les morts, valeur, adresse et ruse et surprise, tout s'employa. Les deux troupes éprises d'ardents courroux n'épargnaient nul moyen de peupler l'air que respirent les ombres. Tout élément rempli de citoyens, le vaste enclos contre les royaumes sombres. Cette fureur mit la compassion dans les esprits d'une autre nation, au col changeant, au cœur tendre et fidèle. Elle employa sa médiation pour accorder une telle querelle. Ambassadeurs par le peuple pigeon furent choisis et si bien travaillèrent que les vautours plus ne se chamaillèrent. Ils firent trêve et la paix s'ensuivit. Hélas, ce fut aux dépens de la race à qui la leur aurait dû rendre grâce. L'agent maudite aussitôt poursuivit tous les pigeons, en fit ample carnage, en dépeupla les bourgades, les champs. Peu de prudence eurent les pauvres gens d'accommoder un peuple si sauvage. Tenez toujours divisés les méchants, la sûreté du reste de la terre dépend de là. Semez entre eux la guerre, ou vous n'aurez avec eux nulle paix. Ceci dit, soit dit en passant, je me tais. Voici, merci Jean de La Fontaine. Évidemment, vous l'avez compris, le peuple des pigeons, c'est le peuple libanais qui est la victime de ce conflit israélo-iranien, qui est l'une des victimes de ce conflit israélo-iranien. Quelques annonces avant que je n'invite mes auditeurs, mes invités à prendre la parole. Quelques annonces. Ma dernière émission était relative au climat. J'avais invité notre ami Christian Gérondeau, que j'ai invité à plusieurs reprises à ce micro. Je viens de recevoir, mais je n'ai pas lu, je dois vous l'avouer, je viens de recevoir à l'adresse de Radio Courtoisie, paru aux éditions L'Harmattan, un ouvrage de Michel Vieillefosse, Climat, comprendre sans simplifier. Michel Vieillefosse, édition de L'Harmattan, le prix 26 euros. Quelques annonces de réunion à signaler que en l'église Saint-Roch, qui se trouve 296 rue Saint-Honoré à Paris, du 10 avril de 19h à 19h30 au 11 avril 26 à 19h30, c'est-à-dire pendant 24 heures de messe en continu selon différents rites latins et orientaux, 24 heures de confession, 24 heures de rencontre avec des associations d'aide aux communautés chrétiennes dans le monde. Je pense notamment à SOS Chrétien d'Orient, évidemment à l'œuvre d'Orient et à bien d'autres. Le thème de ces 24 heures non-stop est le suivant: un seul corps, une seule foi. Ce sont 24 heures pour la paix, avec une première bénédiction Urbi et Orbi du pape Léon XIV. Voilà en ce qui concerne cette date des 10 et 11 avril prochains. À signaler également que le 11 avril prochain, à la Maison de la Chimie, l'Institut Iliade pour la Longue Mémoire Européenne présentera une conférence pour son colloque annuel, donc le samedi 11 avril 26 à la Maison de la Chimie. Et puis je me tourne vers Jean Larmande qui va évoquer évidemment la date du 26 mars traditionnelle. À laquelle nous participons également chaque année, Jean Larmande.
Oui, donc le 26 mars, comme chaque année, il y aura, alors là c'est le matin, organisé par l'association de la mémoire des victimes du 26 mars, une messe à Saint-Nicolas-du-Chardonnay à 10h30, et l'après-midi, là aussi comme chaque fois, il y aura d'abord à 14h30 au Quai Branly, au Mémorial National de la Guerre d'Algérie, une cérémonie. Et surtout, à 18h30, avec rendez-vous un peu avant 18h, à l'Arc de Triomphe, dépôt de gerbes et rallumage de la flamme. Là, organisé par la plupart des associations venant d'Algérie, l'association du 26 mars, la MAFA, le cercle algérianiste que je préside, etc. Voilà le...
Voilà, donc cette évocation, comme vous le savez, nous avons le grand souci du devoir de mémoire, au même titre d'ailleurs que Radio Courtoisie, bien évidemment. Et alors je vais me tourner Puisque nous allons parler de notre cher Liban victime du conflit israélien, je me tourne peut-être en priorité vers notre ami avocat, Maître Eli Atem, avocat libanais, docteur en droit, officier de l'ordre du Cèdre. Voilà, le Liban, je dois dire, à titre personnel, j'y suis particulièrement attaché, et parce que ma famille, mon propre père, officier général, a été conseiller militaire du président de la République libanaise, le président Fouad Chehab, autrefois, et que dans le cadre du Cercle Renaissance que j'ai animé pendant un peu plus de 50 ans, j'ai reçu différentes personnalités, dont le président Charles Elou, et nous comptions parmi nos amis également un très grand monsieur qui était l'ambassadeur Boutros Dib, qui était l'ancien recteur de l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Et puis j'ai reçu bien d'autres personnalités, Marwan Amadé, etc., comme je vous l'indiquais tout à l'heure, Eli Atem. Voilà, donc c'est pour vous dire que le Liban, non seulement moi-même, mais d'une façon générale, a des liens particuliers avec la France. Je pense que tant le colonel Corvez que le colonel Hogar l'évoqueront tout à l'heure, il y a des liens ancestraux entre la France et le Liban. On peut dire que le Liban, c'est une petite France, d'une certaine manière. Eli Atem, vous avez la parole.
Oui, merci Michel de votre invitation. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour également à tous les invités autour de cette table qui parle du Liban. Et Michel, comme vous l'avez souligné, les relations franco-libanaises datent de beaucoup plus. Ce sont des relations millénaires. Il faut rappeler d'ailleurs que Saint Louis avait déclaré ce qu'on appelait la millette marolite, c'est-à-dire la nation libanaise, comme faisant partie de la nation française. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle tous les Libanais, de toutes les confessions confondues, se considèrent français, car cette déclaration de Saint-Louis, qui a été confirmée par plusieurs monarques, plusieurs rois de France, dont le roi Louis XIV, Louis XV et Louis XVI ont confirmé. Donc, elle n'a pas été remise en cause et c'est la raison pour laquelle les Libanais, en particulier peut-être les Maronites, se sentent très attachés à la nation française et ils sont, je dirais, plus royalistes que le roi, d'où votre serviteur et mon engagement, en fait, pour que la France retrouve ses origines et son identité, qui est celle que nous avons connue. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est la France, en 1920, avec le général Gouraud, qui a aidé le Liban, d'ailleurs, à recouvrir ses frontières, ce qu'on appelait à l'époque le Grand Liban.
Qui a créé le Grand Liban, tout à fait.
Qui n'a pas créé, qui a reconfirmé le Grand Liban, parce que le Grand Liban existait du temps des princes, notamment de Fakhreddin, qui avait agrandi les frontières libanaises, et ces frontières ont été restaurées par grâce à la France, par l'intermédiaire de la France, en 1920. C'était à l'époque, le Liban était placé sous mandat français à la demande de Libanais, chrétiens et musulmans. Il faut rappeler que les deux ont demandé à la France pour être indépendants en particulier, parce que toute la région était occupée par les Ottomans. Et le fer de lance, en fait, de cette indépendance, cette renaissance de la culture arabe, est dû en particulier à des chrétiens. Le nationalisme arabe est un nationalisme qui était fortement inspiré par les idées nationalistes françaises, et puis notamment Charles Maurras, qui a beaucoup inspiré les différents mouvements, dont celui de Michel Aflaq, le fondateur du nationalisme syrien et du nationalisme arabe. Donc ce sont ces liens qui sont fondamentaux pour comprendre cette relation entre la France et le Liban. Et je regrette, et je le dis sur votre antenne, qu'il y a une pléthore de Français qui laissent tomber le Liban et qui vont plutôt vers une entité artificielle qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale en prenant en otage les Occidentaux après le désastre qui est arrivé aux différentes communautés ashkénazes, d'ailleurs, en Europe, et sous prétexte d'antisémitisme, s'ils ne reconnaissent pas cette entité artificielle qui est née avec un mouvement, le mouvement sioniste, qui a son origine, non pas avec Théodore Herzl, c'était bien avant, c'était avec les amants de Sion, qui ont inventé cette notion d'un peuple juif, et c'est pas moi qui le dit et qui le nie, mais c'est Shlomo Sand, c'est un auteur qui est de confession juive et de nationalité israélienne, qui démontre noir sur blanc dans une étude, je dirais, érudite, qu'il n'existe pas d'un peuple juif. Tout a été inventé avec cette notion de sionisme. Et depuis la moitié du 19e siècle, il y a eu un déferlement de ce qu'on appelle les bilouim, c'est-à-dire des gens des différentes communautés de confession juive, très bien implantées d'ailleurs dans le monde, mais avec cette poussée du fanatisme, du fondamentalisme, il y a eu une création quand même de ce sentiment de vouloir se détacher des nations où elle se trouve pour aller vers la Palestine, et c'était le début du Yishuv. Et progressivement, il y a eu la création de ce qu'on appelle l'OSM, c'est-à-dire l'Organisation du Sionisme Mondial, et puis de l'Agence Juive, et des efforts qui ont été faits. Donc les pionniers, je dirais, de la résistance palestinienne, comme également de la résistance libanaise, je le dis sans complexe, ce sont nous les chrétiens, en particulier en Palestine, les seuls qui ont résisté et qui réveillaient l'opinion publique, c'était Georges Antonius, c'était les frères Sakakini, c'était tous ces auteurs, tous ces écrivains, le journal Falastinouna, par exemple, il était créé par des chrétiens, en particulier des catholiques, qui voulaient réveiller l'opinion publique des Palestiniens, et la même chose a été également au Liban. Donc, il faut dire que quand même, le mal qui est tombé sur la région a commencé avec le sionisme et plus tard avec avec l'ordre Balfour, la déclaration Balfour, et progressivement le désastre et cette horreur qu'ont subi en fait les communautés ashkénazes en Europe occidentale, qui d'ailleurs, il y a eu une relation entre l'agence juive, l'OSM et les nazis. Et ce sont les accords de la Havara, et tout le monde oublie, où il y avait un intérêt commun, d'une part des nazis et d'autre part des sionistes. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on voit un certain rapprochement entre une extrême droite européenne et ces mouvements sionistes qui sortent du cadre d'extrême droite ou d'extrême gauche. Parce que, vous savez, chez Daesh, et chez les fondamentalistes musulmans, quand on me dit « oui, il y a des modérés et des moins modérés, il y a une droite et une gauche », c'est la même chose que dans le talmudisme politique. On ne peut pas dire qu'il y a du sionisme de droite ou de gauche, et donc, malheureusement, il y a un rapprochement entre les deux. Donc, le drame du Liban n'a pas commencé avec l'Iran et cette crise. Le drame du Liban a commencé avec la déclaration de l'entité sioniste comme État, avec les visées d'Israël, qui depuis 1947, avant même la création de l'État d'Israël, et je me rapporte là à Remo Hede, qui était le président du Black Bloc National Libanais, c'était de prendre le Liban ensuite et d'arriver jusqu'aux eaux des litanies, et on le voit aujourd'hui avec un autre prétexte.
Tout à fait. Alors, maître, qu'est-ce que vous avez pensé du choix de la fable de La Fontaine comme le Liban étant la victime expiatoire, en quelque sorte, de ce conflit israélo-iranien?
Bon, je dirais que déjà, le Liban a toujours été un laboratoire, un terrain d'expérimentation du fait de sa composition très particulière entre plusieurs communautés religieuses, oui. Non pas simplement chrétiennes ou musulmanes. Quand on voit les chrétiens, comme vous avez tout à l'heure fait allusion à, ou plutôt annoncé ces messes en fait de rites orientaux, oui. Il faut rappeler que il y a une pléthore d'églises orientales. D'une part, elle a, bon, la plupart ont une église catholique, et puis son équivalent en une église orthodoxe.
Oui, bien sûr.
Et donc le Liban, c'est ce résumé-là. Nous avons 17 communautés religieuses au Liban, y compris les juifs d'ailleurs.
Mais alors, lorsque j'ai reçu au Cercle Renaissance le président Charles Hellou, nous avions retenu comme titre « Le Liban, le pays du nécessaire équilibre ». Et alors justement, puisque vous évoquez cette mosaïque de confessions, et même au sein des confessions de différentes chapelles, d'une certaine manière, dès lors que cet équilibre est rompu, il y a un problème majeur qui se pose.
Bah, effectivement, parce que il y a les mains extérieures, des intérêts extérieurs qui jouent avec ces groupes politiques, parce qu'il faut savoir qu'au Liban, il y a une double démocratie. Vous avez la démocratie des partis politiques,
oui.
Des partis, bon, c'est un peu comme en France, c'est un pays multipartite, mais en même temps, il y a un autre enjeu, ce sont les communautés. Et je ne parle pas des religions, je parle des différentes communautés dans le sens communautaire. Et ces communautés-là sont confessionnelles. Quand je parle des maronites, oui. C'est différent que des orthodoxes. Il y a la communauté orthodoxe, il y a la communauté grecque-catholique.
Oui.
Quand je parle des musulmans, vous avez la communauté sunnite, la oui. communauté chiite, oui. la communauté druze. Les druzes n'aiment pas trop se faire appeler comme mm-hmm. étant une communauté musulmane, mais ils le sont parce que leur fondateur était un fatimide. Donc, c'est ça la complexité, en fait, du Liban. Vous avez à la fois des communautés, mais à la fois également des différentes tendances de partis politiques.
Voilà.
Et il y a effectivement une ingérence étrangère, extérieure. Nous, en particulier les maronites, nous avons toujours tendu le bras, nous avons toujours espéré de la France, mais pas la France d'aujourd'hui. Moi, je parle d'aujourd'hui, la France, ce ne sont plus des Français. Il y a des néo-Français qui ignorent tout, qui ignorent l'histoire de la France, les liens naturels qui doivent lier la France au Liban, aux amis fidèles de la France. Aujourd'hui, quel intérêt pour la France de s'allier à Israël ? Quel intérêt ? Est-ce que les Israéliens vont acheter une boîte de cartouches ? Eh bien non, ils vont acheter leurs munitions et tout et l'ensemble de la part des États-Unis. Il y a un conflit géopolitique entre la France et le monde anglo-saxon. Israël suit le monde anglo-saxon, car c'est une création du monde anglo-saxon. Quand je pense aux évangélistes, et en particulier aux chrétiens sionistes, qui étaient, à l'initiative même de la création de cette entité, qui d'ailleurs est fortement critiquée de plus en plus par l'ensemble des communautés juives dans le monde, en particulier aux États-Unis. Donc, je suis désolé, et quand je vois, excusez-moi de les appeler comme ça, des droitards français, qui deviennent plus sionistes que certains juifs sionistes, quand je vois qu'il y a de plus en plus de juifs qui remettent en cause le sionisme, qui y a comme première victime les juifs eux-mêmes, je vous parlais tout à l'heure de la Haagara, et ce fameux accord qui est découvert, qui est étudié en ce moment en Israël, remet en cause toute cette mauvaise ou fausse propagande de l'entité sioniste. Vous vous souvenez de la fameuse boutade que les sionistes utilisaient, c'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et puis après, ils sont revenus en arrière en disant oui, mais ce sont les Palestiniens qui ont vendu leur territoire. Mais comment vendre leur territoire? Et donc, vous reconnaissez l'existence d'un peuple sur cette terre qui était prétendue, selon vous, être sans peuple. Donc, plein de contradictions, et cette découverte vient beaucoup plus des juifs que des non-juifs.
Alors, maître, je voudrais vous remercier d'avoir posé le problème du Liban, puisque c'est le thème même de notre émission, notre cher Liban, victime du conflit israélo-iranien, et il était important que vous souligniez justement la complexité, l'extrême difficulté qui résulte de cette mosaïque qu'est la nation libanaise. Et je me tourne vers le colonel Alain Corvez, directeur d'un cabinet de conseil en stratégie internationale. Mon colonel, votre opinion, votre impression et votre attachement au Liban?
Alors, je vais vous expliquer tout de suite mon attachement au Liban. Il date de 1988-89, quand j'ai été nommé. Et je pense que c'est, dans la présentation, c'était peut-être la chose la plus importante à dire. C'était, j'ai été le conseiller du général commandant la force des Nations Unies au sud du Liban, la FINUL, pendant un peu plus d'un an. Et ça a été mon premier contact.
Qui était le général? C'était Bavinchov, non, c'était avant.
C'était le général Haglund, je crois, qui était un Suédois, qui était un parfait officier d'état-major. Je pense qu'il avait, je ne sais pas s'il avait tenu un jour une arme dans ses mains, mais c'était, il devait être plein de diplômes en Suède, et donc il avait été nommé chef de la force des Nations Unies. Il ne comprenait rien de ce qui se passait, et donc j'essayais de lui expliquer les choses. J'aurais plein d'anecdotes à raconter à son sujet, mais j'ai donc été, à cette époque, jeté, si je puis dire, dans un Liban que tout le monde ne comprenait pas depuis Paris. Oui. J'ai essayé de me renseigner, de savoir avant de partir.
En 88, oui.
J'ai dit, moi, je veux bien mourir pour la France au Liban, mais je voudrais savoir d'où vient la balle, pourquoi, voilà. Et donc, je suis parti dans un flou complet, mais j'avais étudié la question quand même. Et pour, je ne dirais pas comme le général de Gaulle dans ses mémoires que vous n'avez pas voulu citer tout à l'heure, mais que je vais citer, c'est au début de son chapitre sur l'Orient.
Compliqué.
Il commence « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Et il essaie d'expliquer ensuite pourquoi se déroulait en Orient une partie importante de la guerre de l'époque et qu'il fallait en être, termine-t-il. Et moi, je suis arrivé et j'ai essayé tout de suite de comprendre ce qui se passait, pourquoi les gens s'entretuaient, quelles étaient les milices, les factions. Et je me souviens que, a posteriori, j'ai gardé le souvenir que j'ai appris davantage du Liban dans ses profondeurs en allant avec mon escorte, puisque à l'époque, il fallait...
Bien sûr.
D'ailleurs, Chirac, j'étais le seul qui avait le droit de sortir du camp retranché de la FINUL. Et j'ai appris davantage en prenant une tasse de café dans les villages où les gens, quand je passais, m'invitaient à venir prendre une tasse de café, où ils me disaient tous, qu'ils soient chiites, chrétiens ou autres, mais surtout les chiites, et en tout cas les musulmans du sud Liban, me disaient « Mais la France est notre mère, autant que les chrétiens. » Les chrétiens le disaient volontiers, oui. comme notre cher ami Atem vient de le dire. Oui. Tout cet historique est très important
bien
à
sûr.
Voir.
Parce que, effectivement, c'est pour ça que j'ai souhaité commencer justement par cet historique.
C'était très important, oui. Il a rappelé que ça remonte à Saint-Louis, effectivement.
Bien sûr.
Et Saint-Louis a failli mourir à Saint-Jean-d'Acre. Hein, et donc, qui était à l'époque la Palestine. Et donc, mon attachement au Liban date de cette époque. Parce que, bon, j'ai failli, et j'ai pris des risques énormes, évidemment. Mais c'est parce que ma mission était d'être au Liban. Et donc, quand on était au Liban à l'époque, on risquait de mourir pour une raison ou pour une autre. Et donc, au milieu de ces dangers et de ces risques, j'ai découvert l'âme libanaise. Et ça m'a beaucoup marqué. Alors, aujourd'hui, je voudrais dire que ce qui se passe, il faut... Je pense que nous, occidentaux, je mets dans Occident l'Europe... Et puis l'Australie, qui n'est pas dans l'Occident, mais qui fait partie de cet ensemble qu'on appelle l'Occident soi-disant démocratique. On n'a pas compris l'âme de l'Iran et on n'a pas compris l'âme du Liban. Le Liban, ce sont des gens qui assoient leur... comportement et leur action sur une foi, sur une métaphysique. Et les Occidentaux qui sont devenus sans métaphysique, qui sont devenus anti-même métaphysique, qui veulent enlever les églises des villages en France et ailleurs, comme Solzhenitsyn l'avait dit très bien dans son discours de Harvard en 1978. Alors, je vais insister un peu sur ce discours de Harvard qui est très important. À Harvard, Solzhenitsyn est venu, il s'était rassemblé dans cette enceinte toute l'élite intellectuelle des États-Unis d'Amérique pour écouter ce refugnik là qui avait été expulsé.
Ce Zec, c'est le terme des prisonniers du goulag.
Voilà, qu'il avait décrit merveilleusement dans tous ses écrits, car c'est un grand écrivain, mais un grand philosophe aussi. Et il a donc effectivement critiqué, et les Américains qui étaient là, c'était pour entendre la critique du communisme et de l'URSS. Ils l'ont entendu, parce qu'il a dit qu'effectivement c'était un régime matérialiste qui avait détruit les personnalités et l'âme de la Russie. Mais aussitôt après, dans la foulée de cette déclaration, il a attaqué l'Occident en disant que l'Occident avait perdu son âme et que ce n'était certainement pas la solution pour l'avenir de l'humanité. Et là, alors, on a vu, paraît-il, les têtes des Américains, parce qu'il a insisté, il a détaillé, là je vous le dis de façon brutale et rapide, mais il a détaillé toutes les tares de l'Occident, et il a dit que c'était un matérialisme qui était aussi horrible que le matérialisme soviétique. Et donc, c'est pour ça qu'après, il y a des gens qui ont dit « merveilleux discours », mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit « mais c'est une crapule d'avoir attaqué les gens qui l'ont reçu ». Voilà. Mais Solzhenitsyn, avec son immense esprit, avait prédit d'ailleurs ce qui se passe en ce moment. Bien c'est sûr. Que la perversité de cet Occident collectif, là, est devenue maintenant évidente. Alors, dans cette affaire, pour revenir au Liban, parce que c'est le sujet de l'émission... il faut comprendre qu'il y a une solidarité religieuse dans tous les chiites. L'Iran est majoritairement chiite, mais l'Irak est majoritairement chiite aussi. Il y a d'autres pays qui ont des...
C'est surtout le sud de l'Irak qui est chiite, oui. Principalement du côté de Bassora.
Oui. De même qu'au Liban, les chiites sont beaucoup au sud, oui. Effectivement. Mais ces gens ont une foi. Et c'est ça que les gens qui n'ont plus de foi, qui sont des matérialistes absolus, ne peuvent pas comprendre. Et M. Trump, comme M. Hexet, et comme toute l'administration américaine qui a décidé de façon contraire à leurs intérêts de se lancer dans cette attaque de l'Iran, ils ne pouvaient pas comprendre que ces gens, ils font face maintenant, encore maintenant, ils ont du mal à réaliser qu'ils se sont trompés, non. Les Iraniens font preuve d'une résilience qu'eux-mêmes n'avaient pas
prévue. Vous avez raison de souligner, parce que dans les grands équilibres géopolitiques, mais je remonte à vos années même antérieures, à l'époque du communisme tout puissant, et il faut souligner que le monde musulman était tout à fait... rétif à cela, à commencer par les 50 millions de musulmans chinois. Moi, je suis moi-même allé à Xi'an, j'ai vu la grande mosquée de Xi'an. Les musulmans chinois étaient totalement n'intégraient absolument pas les mots d'ordre du marxisme régnant. Effectivement, il y a une méconnaissance de la part de l'Occident quant à cette capacité de l'islam d'être totalement autonome par rapport au marxisme, par rapport aux différentes doctrines extérieures.
Je peux ajouter quelque chose d'assez intéressant. Voilà, quelque chose
mais brièvement, parce qu'après, ce sera
tout à fait. Oui. C'est simplement sur la croyance. En Orient, nous sommes beaucoup plus attachés à la religion, à la spiritualité. Oui. Je peux vous assurer une chose, ce qui m'a toujours frappé, c'est quand je vais à Notre-Dame du Liban, et quand je vois les femmes voilées, alors la plupart sont soit des chiites, ou même aussi des femmes sunnites voilées. Et puis, il y a aussi des pèlerins qui viennent en fait d'Iran pour aller à Notre-Dame du Liban.
Vous parlez de Notre-Dame du Liban à Paris
Notre-Dame du Liban au Liban, vous savez. Oui. Et puis, la dernière chose aussi, à Saint-Charbel. Et à Saint-Charbel, qui d'ailleurs fait beaucoup plus de miracles avec des musulmans et des druzes qu'avec des chrétiens. Dire, parce qu'il y a un attachement spirituel, et vous pouvez le vérifier sur la toile.
Alors je vais peut-être me tourner vers le colonel Hoger, dont je rappelle qu'il est légionnaire, ancien officier des forces spéciales. Mon colonel, le sujet de notre cher Liban, victime du conflit israélo-iranien, que vous inspire ce titre, et quel message vous aimeriez apporter aux auditeurs de Radio Courtoisie?
Alors d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Contrairement à mes deux prestigieux prédécesseurs, je ne suis pas un spécialiste du Liban. Mais je vais vous dire mon attachement personnel pour ce pays, qui a été très bien d'ailleurs résumé par Eliatem et par Alain Corvez, mon vénéré grand ancien. En réalité, je pense que cette guerre est épouvantable. Je pense qu'on est dans une espèce de logique de... comme l'a très bien dit Alain Corvez, il y a une espèce de haine contre tout ce qui est différent et contre tout ce qui est spirituel. Et on vit cette haine ici même en France. On vient de connaître un épisode avec les élections municipales. On voit que on est fracturé de manière très profonde, et pour moi, la cause est très simple, elle remonte aux Lumières en général, mais surtout à l'assassinat du roi Louis XVI le 21 janvier 1793. Je crois que tous nos malheurs ont commencé là, y compris pour le Liban, par voie de conséquence. Parce que la déchristianisation de la France, l'état grave dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, prend ses sources, vraiment, à mon avis, dans ces événements dramatiques qui remontent à plus de 250 ans. Alors, pour le Liban, je souscris à tout ce qui a été dit. Moi, je prie pour le Liban en ce moment, et je prie Saint-Louis et Saint-Charbel. Parce que je pense que c'est un résumé historique, mais on s'adresse à deux grands saints qui sont là et qui peuvent intervenir et qui font des miracles. Alors, même si Saint-Charbel fait plus de miracles pour les musulmans que pour les chrétiens, je ne sais pas. Mais voilà. Moi, je suis passé au Liban, mais rapidement. Je n'ai pas servi comme le colonel Corvez au Liban. Mais j'ai fréquenté la région plus tard, comme civil, m'essayant au dur travail d'entrepreneur chargé d'aider les entreprises françaises dans la région. Et je me suis intéressé effectivement à cette région, au Liban, à la Syrie voisine, à l'Iran. Iran, où nous sommes allés ensemble il y a maintenant pas mal d'années avec Alain Corvez, qui m'a permis de découvrir ce pays extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai une attitude. Alors, moi, j'étais jeune, j'avais une espèce d'admiration, pas très fouillée, pas très recherchée, pour Israël, pour Tsahal. Je me souviens de Moshe Dayan, je me souviens du raid sur Entebbe, comme jeune candidat à Saint-Cyr. C'était des événements qui me faisaient un peu rêver. Et puis, au fil du temps, s'est éveillée ma conscience, si je puis dire, géopolitique, et j'ai compris en plusieurs étapes. Une étape au Rwanda, en 1994, qui m'a amené à m'interroger sur Israël. Je le dis très clairement, pour le rôle joué par ce pays dans les Grands Lacs. Et puis le Kosovo en 1999,
oui, dramatique,
qui a été pour moi une pierre angulaire de ma carrière militaire et qui a décidé de sa fin directement. Et puis, de fil en aiguille, j'ai compris en réalité le rôle néfaste de ce que vous appeliez, cher maître, cher Élie, tout à l'heure, l'entité sioniste. Né de toutes pièces en 1948, né dans le terrorisme, il faut le rappeler, l'Irgun, la Haganah, etc., et qui a consisté à expulser de leurs terres, par tous les moyens, les habitants qui y vivaient depuis des millénaires, et dont beaucoup étaient chrétiens.
Tout à fait.
Chrétiens ou musulmans, chiites ou sunnites, mais beaucoup étaient chrétiens.
Alors, il y a eu la mort d'un prêtre, d'ailleurs, la semaine dernière.
Il y a eu la mort d'un prêtre.
La mort d'un prêtre la semaine dernière. Et,
oui.
Et pendant le week-end, je crois qu'il y a eu 5 ou 6 tués dans les territoires occupés.
Oui. Palestiniens. Et alors, vous avez raison de signaler ça, parce que personne n'en parle, en fait. Ça n'intéresse pas grand monde. Et puis, alors, il y a ce drame du village de Taïbé, en Cisjordanie, qui est un des derniers villages chrétiens. Le père, dont le nom m'échappe à l'instant, le curé de Taïbé, a pris la parole plusieurs fois pour défendre le droit à la vie sur sa terre d'une communauté chrétienne qui est millénaire, encore une fois.
C'est le père Emmanuel Moussallem.
Merci beaucoup.
Il faut absolument d'ailleurs le suivre sur YouTube.
Absolument. Alors je le suis, mais c'est vrai que j'ai parfois des trous de mémoire pour les noms propres. Ça commence. Simplement pour dire que finalement, le drame de cette région, comme vous l'avez dit tous les deux, mes deux prédécesseurs, c'est la création de cet État artificiel, peuplé de juifs ashkénazes venant d'Europe centrale. On peut parler aussi de Khazars, etc., qui n'ont rien à voir avec la tradition physique, réelle, historique de la région. Et alors, oui, je vais faire plaisir à Alain Corvez, je vais citer le général de Gaulle, mais ce qui m'a frappé, c'est un peu taquin de ma part, mais ce qui m'a frappé, c'est cette conférence de presse de 1967, où en quelques phrases bien senties, parce que c'était un homme qui avait été bien formé dans sa jeunesse, grand lecteur de l'Action française, en particulier, et qui a rappelé en quelques phrases extrêmement ciselées et précises un point de vue sur l'état de la région à ce moment-là, qui est d'une actualité brûlante. J'en parlais avec une amie qui est serbe de Bosnie, qui a ouvert le bureau de représentation de la République serbe de Bosnie à Paris il y a quelques jours, et qui était étonnée de ses positions. Et je lui ai dit, mais regardez, écoutez ce discours qu'on trouve sur YouTube, vous allez être bouleversé, parce que les Serbes gardent une grande admiration pour De Gaulle, ami de Mihailovic, etc. Voilà, et donc, et tout ça, c'est très important pour moi. Et puis, j'ai été surpris aussi de voir qu'il y a un militantisme sioniste qui existe encore chez certains, dans nos milieux, et en particulier dans l'armée française. J'ai été invité il y a un an ou deux par un garçon un peu plus ancien que moi, que j'avais connu en Corniche à Aix-en-Provence, officier général, qui m'invite à venir participer à une visite en Israël après le 7 octobre, organisée par l'armée israélienne, par Tsahal. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non parce que je ne donnerai pas mon nom comme caution à ce qui s'est passé là-bas et qui est infiniment regrettable. Et l'objet d'une désinformation monumentale, à mon sens, et d'une manipulation et d'une instrumentalisation. Voilà. Alors, donc, ça ne me fait pas vraiment, aujourd'hui, comment dirais-je, dans le camp israélien ou américain, puisque les Américains, j'ai appris à en revenir depuis, je vous dis, depuis...
Mais il y a, depuis il y a une tension actuellement, d'ailleurs, du côté américain.
Oui,
d'abord,
interne,
il y a une énorme partie de la population qui est très réservée, y compris chez les Républicains, quant à la poursuite de ce conflit,
cette guerre, bien sûr.
Avec le sentiment que Trump s'aligne, en fait, sur s'est aligné inconsidérément sur Israël. Il faut rappeler également qu'il y a évidemment plus de juifs aux États-Unis qu'en Israël, c'est
oui,
évident. Mais ce que j'aimerais que vous évoquiez, alors soit vous-même, soit le colonel Corvez, c'est la distinction entre antisionisme et par rapport à antisémitisme. Parce que je crois qu'il y a une énorme confusion dans l'esprit des gens.
Bien sûr.
Et je crois qu'il faut absolument éclairer la différence entre... on peut être antisioniste sans être antisémite, bien évidemment.
D'ailleurs, finalement, quels sont les vrais sémites de la région? Ce sont bien les Palestiniens, aujourd'hui, les Libanais, et voilà.
Oui.
Donc ça, c'est très clair. Je voulais juste rajouter un point particulier sur le plan personnel, un lien personnel avec le Liban. C'est que j'ai 5 filles, et l'une d'entre elles a épousé un brillant Saint-Cyrien, tout jeune commandant aujourd'hui, qui est corse par son père et libanais par sa mère. Sa mère est maronite, elle est hélas décédée l'an dernier, et cet officier est un modèle pour moi. Je suis extrêmement fier d'être son beau-père, officier d'infanterie, qui a commandé au 1er régiment d'infanterie, j'ai une plus grande encore sensibilité au drame libanais à travers lui, parce que je vis à travers lui et avec en discutant beaucoup avec lui, le drame que vit le pays de sa mère et de ses grands-parents. Voilà ce que je voulais dire en deux mots. Alors, sur ces mythes et antisémites et antisionistes, vous avez tout à fait raison de signaler, parce que les gens ne comprennent pas.
Mais absolument, je crois qu'il faut être clair sur ce sujet.
Il faut être très clair. Pour moi, le sionisme, c'est un mouvement politique, c'est et instrumentalisé en réalité par les puissances anglo-saxonnes, et ça a été rappelé tout à l'heure, et il faut le redire, nous n'avons rien, nous, Français, nous n'avons aucun intérêt avec le sionisme, et même au contraire, nos intérêts nationaux vont contre le sionisme, pour les raisons qui ont été brillamment expliquées avant moi. L'antisémitisme est tout à fait autre chose. L'antisémitisme, c'est du racisme élémentaire, qui est intolérable pour des chrétiens. Le chrétien que je suis, mauvais chrétien peut-être, mais qui s'accroche à sa foi. Et donc, ma position à moi est très simple. Je ne mélange pas les deux. Je pense qu'il faut le dire.
Mais c'est pour ça que je voulais absolument que vous évoquiez ce point, parce que il y a un certain nombre de groupes et de personnes qui veulent faire la confusion et font cette confusion dans un sens évident. Attendez, ne quittez pas, parce que nous allons écouter, mes chers amis auditeurs, nous allons écouter un bobino de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je vous avais promis un sujet extrêmement difficile, extrêmement complexe, hein, notre cher Liban victime du conflit israélo-iranien, pour lequel j'ai donc invité dans ce studio à la fois le colonel Alain Corvez, directeur d'un cabinet de conseil en stratégie internationale, maître Elie Atem, avocat libanais, docteur en droit, le colonel Jacques Hogard, légionnaire, ancien officier des forces spéciales, Jean Larmande, le lieutenant-colonel Jean Larmande, secrétaire général de la Société française de géopolitique et du Cercle Renaissance. Mon cher Jean, vous avez la parole.
Oui, je voudrais situer ça peut-être dans un univers un peu différent. J'ai passé ma vie à voyager, enfin, diriger des entreprises, superviser des activités un peu partout. Et une des choses qui m'a énormément surpris au début, mais que j'ai commencé à comprendre, c'est que c'est l'impossibilité ou la grande difficulté qu'ont les êtres humains à vivre sur un territoire avec au voisinage des gens ne partageant pas ou bien leur origine raciale ou leur origine culturelle ou l'activité professionnelle. Et je vais vous donner quelques exemples, parce que si on regarde ça au Moyen-Orient, mais quand on regarde les autres pays, en particulier les Amériques ou l'Australie, moi je suis allé pendant une dizaine d'années, j'ai supervisé l'activité en Australie, j'y suis allé souvent, et un jour, je demande au gouverneur, c'est-à-dire le président régional de la Tasmanie, où on avait une usine, en lui disant, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'aborigènes en Tasmanie? Il me regarde avec un grand sourire en me disant, mais non, on les a tous éliminés à la fin du 19e siècle. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que d'abord ils volaient, puisque ça c'était la même chose que les Indiens aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Mais en plus de ça, ça n'était pas des êtres humains parce qu'ils ne supportaient pas l'alcool. Et donc, on les a, mais il y a la même chose quand vous allez en Argentine, où un jour, le patron de notre filiale avait un nom un peu compliqué avec I Hornos à la fin. Je lui dis, mais pourquoi c'est moi qui avais repris le contrôle en disant, mais pourquoi tu t'appelles ça avec I Hornos? Il me dit, mais tu connais pas le général Hornos? Alors je lui dis, non, c'est un général argentin. Il me dit, oui. Je lui dis, bon, c'était la guerre du Chaco, etc. Mais non, pas du tout. C'est lui qui a fini la colonisation du sud de la Patagonie grâce à ce qu'il avait décidé, c'était deux oreilles, un peso. C'est-à-dire que l'Argentin qui arrivait en ayant deux oreilles, donc l'Indien étant passé à deux vies à trépas, il recevait un peso, etc. Mais si vous voulez, pour moi, c'est une des grandes dominantes, et il y a très peu de pays ou de religions qui acceptent ça. Les musulmans, par exemple, ils répondent avec la taqiyya. C'est-à-dire, si je suis minoritaire, je me cache, je ne dis pas que je suis musulman, et je vis très bien dans un pays jusqu'au moment où on peut prendre le pouvoir. Quand on regarde le Moyen-Orient, moi j'ai aussi pas mal patrouillé là-bas, en particulier en Irak, à l'époque de Saddam Hussein, On a édité à ce moment-là un livre de mémoire de Saddam Hussein, mais l'Irak fonctionnait pourquoi ? Parce que c'était un pays à majorité sunnite. Chiite, mais dont le président était un sunnite. Oui. Et donc, les minorités pouvaient vivre ensemble. Et c'était pendant dire, le cas au Liban.
Mais je dois dire, mon cher Jean, qu'à Karbala comme à Najaf, qui sont les deux grandes villes saintes chiites en Irak, j'ai vu moi-même le portrait de Saddam dans la mosquée chiite, alors qu'effectivement Saddam était sunnite.
Oui.
Mais il y avait
oui.
quand même une, oui, aussi, il y avait un sentiment national, c'était le parti basse.
Il y avait des ministres chrétiens.
Bah, oui, il y avait des ministres chrétiens, commencé par Tariq Aziz, qui était effectivement tout à fait...
Et pour moi, c'est un des problèmes de l'humanité, de pouvoir vivre ensemble oui. si on ne partage pas tout.
De même qu'il faut souligner qu'en Iran, il y a des députés chrétiens. Il y a effectivement au sein du Parlement iranien, moi je suis
également. Il y a un quota de députés.
Il y a un quota, effectivement, de députés arméniens. J'ai été moi-même à la cathédrale arménienne de Téhéran, magnifique. C'est tout un ensemble.
On sonne les cloches au moment de ça. Et sur le mur de clôture, à l'entrée, il y a une croix visible de l'extérieur.
Absolument. Il y a des processions de Vendredi Saint qui n'ont même pas lieu en France.
Le colonel Corvez. J'ai assisté début janvier à une messe dans cette cathédrale.
Ah oui, j'y suis allé aussi. Oui,
où vous êtes allé.
Absolument.
Parce que il faut éclairer quand même nos auditeurs sur le Liban et le Hezbollah qui est traité de mouvement terroriste.
Alors mouvement terroriste pour les Américains.
Alors je crois que je vais essayer
pour les Français,
essayer de vous citer la très courte phrase. Oui. Que le colonel Hogar mentionnait tout à l'heure dans son discours du 27 novembre 67
général de Gaulle.
À la conférence de presse à l'Élysée du général de Gaulle après la guerre des Six Jours. Il explique, donc il a très bien expliqué l'historique et tout ça, il faut lire et écouter, c'est extraordinaire, c'est encore d'actualité. Et cette courte phrase est la suivante. Israël, en 6 jours de combat, s'est emparé des territoires qu'il voulait conquérir. Depuis, sur les territoires qu'il a conquis, bon, il y a peut-être quelques
variantes,
ma mémoire est défaillante, mais autrefois je les savais par cœur. Depuis, sur les territoires qu'il a conquis, il organise l'occupation. Retenez bien les termes parce qu'il emploie les termes de la résistance française. Depuis, sur les territoires qu'il a conquis, il organise l'occupation, qui ne peut aller sans répression, déplacement de population. Se développe alors contre lui une résistance qu'à son tour, il qualifie de terroriste. C'est-à-dire qu'à son tour, comme les Allemands qualifiaient de terroristes les résistants là-bas. Ouais. Et donc, il faut comprendre que le Hezbollah est né de cette résistance à cette implantation d'une entité qui n'avait pas sa place naturelle dans la région et qui donc devait chasser les habitants qui étaient là. Et cette implantation est la clé et la raison profonde de toutes les guerres que nous avons à ce sujet. Et le Hezbollah est né parce qu'à l'époque, l'armée libanaise n'était pas capable de faire face à la menace israélienne, et c'est le Hezbollah qui a fini par chasser, après 20 ans d'occupation, l'armée israélienne qui a occupé le sud du Liban pendant 20 ans. Et je le disais récemment, l'ambassadeur du Liban, le nouvel ambassadeur du Liban à Paris, au cours d'une conversation, je lui disais, mais monsieur l'ambassadeur, vous critiquez le Hezbollah, mais ça fait partie quand même de la population libanaise, c'est au moins 30%, les chiites sont majoritairement en faveur du Hezbollah. Il y a aussi des chrétiens qui soutiennent le Hezbollah. Et ces gens-là sont des Libanais. Et c'est quand même eux qui ont chassé Israël de votre pays. Il dit oui, c'est vrai, et nous avons applaudi. Bon, cette question est fondamentale parce que le Hezbollah n'est pas un mouvement terroriste, comme on le dit. Il est un mouvement contre le terrorisme de l'État d'Israël qui est en dessous. L'armée libanaise n'a pas les moyens. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a jamais été équipée de l'armement qui lui aurait permis de faire face à Israël. Mais ça a été interdit parce que les Occidentaux, de manière générale, ont toujours interdit, sous pression d'Israël, bien entendu, qu'on fournisse des armements à cette armée libanaise qui aurait pu la mettre cette entité en danger.
En soulignant qu'au sein de l'armée libanaise, il y a également des troupes chiites, bien évidemment, et que de toute manière, ceci explique la difficulté. L'armée libanaise, elle est composite en confession.
Le chef d'état-major de l'armée libanaise, le général Rodolphe Haïkal, il a d'abord, il a annulé une visite aux États-Unis parce que les États-Unis, toujours dirigés par Israël, lui reprochaient ses prises de position, justement, où lui tenait à conserver l'unité de l'armée libanaise. Et les États-Unis, avec le nouveau président et le nouveau premier ministre, qui sont une émanation des États-Unis et d'Israël, disait, il faut désarmer le Hezbollah. Et le général Rodolphe Haïkal a dit que ce serait une action qui entraînerait la division au sein de son armée et au sein du Liban, absolument, de façon générale. Récemment, sur une chaîne de télévision...
Sans oublier que le Hezbollah compte un des premiers groupes au Parlement de Beyrouth.
Mais bien sûr, le Hezbollah a des députés et a des ministres. Donc... sur une chaîne de télévision là, récemment, j'essayais d'expliquer aussi ce qu'était le Hezbollah. Et alors, il y avait un commentateur libanais qui était c'était, je ne sais plus si c'est LCI ou CNews. Qui est un permanent de cette chaîne de télévision. Qui m'a dit « Mais non, mais vous dites des mensonges. » Alors, je lui dis « Vous permettez que je termine ma... » « Non, vous ne pouvez pas terminer parce que vous dites des mensonges. » Vous voyez le fait...
Formatage.
Ah oui, oui. Et donc, j'ai quand même réussi à placer un ou deux mots, mais je n'ai pas pu dire tout ce que j'avais à dire sur ce qu'était le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un mouvement de résistance. Pourquoi il a soutenu... la résistance palestinienne qui est sunnite dès le début. C'est ça qu'il faut voir, c'est que ils sont tous les deux musulmans, mais entre le chiisme et le sunnisme, il y a d'énormes différences. Le chiite est très proche de la religion chrétienne.
C'est vrai.
Ils attendent le Messie comme nous attendons également le Messie. Ils sont tournés, orientés vers l'avenir, alors que le sunnisme est orienté vers le passé.
Notre ami Chabrier, qui est décédé aujourd'hui, qui était un grand spécialiste du Moyen-Orient, soulignait justement la proximité du chiisme avec le catholicisme.
Avec le catholicisme, Colossimo aussi, il l'a expliqué dans des ouvrages remarquables.
Tous les évêques du Kurdistan, par exemple, soulignent la proximité des chrétiens et des chiites depuis des siècles, en disant on est habitué à parler, à échanger de manière pacifique et intelligente.
Donc, pour revenir au Hezbollah libanais, le Hezbollah libanais, ce sont des gens qui résistent, donc ce sont des résistants qui s'opposent à l'oppression... Alors, impérialiste, parce que c'est lié. Les États-Unis d'Amérique et Israël sont tellement liés que si on veut s'opposer à Israël, il faut s'opposer aux États-Unis.
Il commence à y avoir quand même un certain nombre de fractures.
C'est en train de basculer en ce moment. On a un point de basculement extraordinaire où le monde va basculer.
Il faut être extrêmement attentif.
Il y a une dizaine d'années, je crois 8 ou 10 ans, j'avais trouvé un livre de je ne sais plus quel professeur d'université expliquant que le problème d'Israël, c'était des juifs qui ne sont pas de race juive et qui opprimaient des juifs de race qui ne sont plus juifs mais qui sont musulmans.
Vous avez raison,
pour moi, et ce livre, j'avais cherché à le présenter à. J'avais passé pas mal de temps dans l'édition à une époque, mais personne n'a voulu le traduire en français.
Mais moi, j'ai plein d'amis juifs. Et je sais par tous ceux qui sont contre le sionisme et contre ce qui se passe en Israël, je sais que ça va être aussi l'arme peut-être décisive qui va permettre d'arrêter les exactions d'Israël, parce que tout ces, cette diaspora juive et intellectuelle, notamment aux États-Unis et en Europe, ne veut pas être qu'il y ait une analogie entre leur confession juive et ces inhumains qui dirigent l'État d'Israël.
Alors, je crois que Maître Eliatem désire prendre la parole.
Oui, parce que je suis tout à fait d'accord avec le colonel Corvez, mais il y a certains éléments qu'il faut absolument que les auditeurs puissent comprendre. Parce qu'il y a une propagande qui est méticuleusement faite en Occident et en particulier en France pour détourner les choses. Tout d'abord, au Liban, bon, certes, il y a les confessions, mais il y a quand même le nationalisme libanais. Nationalisme libanais, qu'on soit musulman, sunnite ou chiite, ou chrétien, ou orthodoxe, ou catholique, ou druze, nous sommes tous pour ce Liban qui nous a accueillis tous. Parce qu'il faut savoir que moi, par exemple, en tant que maronite, notre famille est venue se réfugier au Liban parce que nous étions en fait persécutés par les jacobites qui sont chrétiens comme nous, d'autre part les byzantins qui sont venus. Bon, ce Liban, nous avons constitué petit à petit une nation. Revenons sur le Hezbollah. Le Hezbollah est né, comme vous l'avez très bien souligné, et puis s'est érigé petit à petit comme un mouvement de résistance nationale qui a pour objectif de protéger la frontière du Liban et puis repousser l'invasion israélienne, comme vous l'avez dit. Et en 2000, en fait, il a réussi à le faire. Israël, en se retirant, pensait que le Hezbollah, qui est à majorité chiite, va s'en prendre aux différents chrétiens qui étaient dans le sud du Liban. Eh bien, contrairement à ce qui s'est passé, deuxièmement, il y a eu l'assassinat de Rafik Hariri, dans les mêmes conditions que l'assassinat, d'ailleurs, de Hassan Nasrallah. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout qui est l'auteur. Donc, il y a eu quand même une sorte de travail, je dirais, de déstabilisation donc, du nouveau du Liban. Et puis, la même chose qu'on peut dire également sur l'Iran. Sur l'Iran, qui progressivement s'est transformé. Ce n'est plus ce régime dur religieux des mollahs. D'ailleurs, quand on parle de lui, l'Ayat al-Faqi, donc a complètement évolué. Et puis, il y a beaucoup, je dirais, de dissidences d'un point de vue théologique et d'autres. Aujourd'hui, c'est que le monde est beaucoup plus clair pour moi. Il y a cet ancien monde libre qui devient un monde sous une dictature sans dictateur apparent, donc l'Occident. Et l'ancien monde totalitaire, à savoir la Russie, l'Iran, la Chine, le Pakistan, l'Inde, etc., qui s'érige en nouveau monde libre. Et aujourd'hui, l'Iran est en train de défendre, comme la Russie, comme ses autres alliés, les spécificités nationales et identitaires de ces pays-là. Et c'est l'Iran qui a lutté, d'ailleurs, contre le terrorisme. Et je vais vous donner un exemple, je vais être très, très court pour vous le dire. Le fameux État islamique, ou Daesh, qui quand même a commis des attentats en Europe, et absolument, en particulier en France. Oui. Qui est d'ailleurs son ancien numéro 2? Ce n'est que Abou Mohammed al-Jolani qui est actuellement propulsé comme président de la Syrie à l'issue d'un coup d'État qui a eu lieu le 8 décembre 2025, poussé par Israël, les États-Unis et la Turquie. Donc, exact. Daesh et l'État islamique, ce sont...
Et les Britanniques.
Bien entendu, c'est le bras droit des États-Unis et d'Israël, du Mossad et de la CIA. Et je vais vous donner une justification, c'est très simple. Le 7 octobre, quand il y a eu le 7 octobre, bon, il y a eu quand même il y avait quand même les massacres de Gaza. Oui. Alors, à aucun moment, l'État islamique n'a condamné en un seul communiqué le massacre ou le génocide, c'est à vous de choisir le terme, et ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours à Gaza, voilà, alors qu'il est occupé à plus de 80% de musulmans et sunnites. En revanche, ce même groupe, c'est-à-dire l'État islamique, le 3 janvier 2024, il s'attaque à l'Iran en commettant un attentat à Kerman dans le sud de l'Iran, l'Iran qui combattait à l'époque ce groupe islamiste, et je parle bien, ça n'a rien à voir avec l'islam, comme le judaïsme politique ou le talmudisme politique n'a rien à voir d'ailleurs avec le judaïsme, il les combattait en Syrie. Et pour se venger, l'État islamique ou ce groupe-là a commis un attentat contre les Iraniens qui combattaient ces takfiristes et ces terroristes. De la même manière d'ailleurs que le 22 mars 2022, il y a eu un attentat à Crocus en Russie Pourquoi ? Quelques jours après la visite d'une délégation de la résistance palestinienne à Moscou et sa réception par le ministre Sergueï Lavrov. Donc pour vous prouver que ces groupes terroristes, takfiristes, islamistes sont le bras armé d'Israël et des États-Unis pour créer en fait ces différentes tensions dans la région et diviser, partager le Proche et le Moyen-Orient en mini-États confessionnels ou ethniques qui se battent entre eux pendant des siècles, des décennies et des siècles et qui en même temps légitiment l'existence de cette entité ethnocratique sioniste qui encore une fois n'a rien à voir avec le judaïsme et je suis tout à fait d'accord pour que je vous rappelle une chose, que le premier congrès sioniste mondial a eu lieu où ? Dans quelle ville ? À Bâle. Il devait avoir lieu à Zurich, mais pourquoi n'a-t-il pas eu lieu à Zurich ? Parce que toutes les communautés juives, à l'époque, étaient contre le sionisme. Et aujourd'hui, nous assistons au même mouvement, d'ailleurs, de plus en plus, de rejet par les différentes communautés juives du sionisme, qui est d'ailleurs une hérésie du judaïsme. En parlant du judaïsme, en fait, il faut rappeler une chose, et puis même le nom d'Israël, c'est le royaume d'Israël qui était habité par qui ? Par des Samaritains. Donc ce sont les Samaritains qui sont les véritables Israéliens.
Nous allons quand même donner la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie, si vous le voulez bien, mais je vous avais promis une émission sur un sujet particulièrement complexe pour ne pas dire compliqué, vous êtes, chers amis auditeurs, vous êtes largement servis. Je vous donne lecture d'un premier message qui est le suivant. Bonjour, le sionisme pense à ses intérêts même s'il s'agit de trahir les peuples. Israël a armé et donné des informations aux Azerbaïdjanais, aux Azéris, oui, pour massacrer les Arméniens du Haut-Karabakh. En échange, ils ont eu toutes les informations par le peuple azéri qui vivent en Iran. D'où le succès des frappes israéliennes en Iran. Israël et le sionisme n'a-t-il pas le sang des 10 000 Arméniens qui se sont battus vaillamment pour défendre leur territoire deux fois millénaire au Haut-Karabakh ? Ça, c'est la première émission.
Oui,
premier message, un message peut-être dans un autre sens. Qui, de la poule ou de l'œuf ? Vos réflexions pointant la vérité historique juste, cependant, semblent s'enliser entre la défense d'une terre attaquée appelant à sa libération. Mais de là à faire du Hezbollah militaire la résistance d'un pays, c'est faire de l'islamisme une victime, alors que ses armes recherchent la guerre et non la paix. Très intéressante émission, mais parfois on ne sait plus qu'en penser si on ne conserve pas la paix comme objectif. Je dois dire que la dernière phrase est magnifique.
Il y a une réponse qui est très claire. Alors, qui a défendu les chrétiens à Maaloula ? Et ce n'est pas moi qui parle, c'est Mère Marie de la Croix. C'est le Hezbollah qui a payé de son sang pour les libérer. Qu'est-ce qui a protégé le Liban de Daesh ? C'est pas moi, c'est le patriarche maronite qui le disait. C'est que sans le Hezbollah, Daesh serait arrivé jusqu'à Jounieh qui est le fief des chrétiens du Liban.
Le colonel Hogard.
Non, je voudrais juste rajouter quelque chose parce que ça m'avait frappé en une de nos visites à Téhéran, mais je crois que tu n'étais pas présent, Alain, cette fois-là. À la sortie de Téhéran, non loin du mausolée de l'imam Khomeini, il existe un cimetière militaire où il y a peut-être 8000 ou 9000 jeunes iraniens tombés au combat contre Daesh en Syrie. Tombés au combat contre Daesh en Syrie. Des jeunes iraniens. Alors il faut arrêter de dire des bêtises, quand même. Il faut quand même que les gens sachent ces choses-là, parce que c'est des éléments absolument précis, concrets, vérifiables. Oui. Je ne suis pas sûr que beaucoup de journalistes français qui vont à Téhéran, en temps normal ou en temps de guerre, prennent la peine d'aller voir ce genre de témoignages. Oui. Il y a les photos sur les tombes de ces garçons, auxquels leur famille amène des pistaches en témoignage. Ça m'avait frappé. Bon. 8 à 9 000 jeunes iraniens à Téhéran, il y en a d'autres ailleurs, mais qui sont tombés finalement contre le takfirisme manipulé par les États-Unis et par Israël. Il faut dire les choses, et par les Turcs.
Je crois que c'est un témoignage important. Je vois avec grand plaisir, mon colonel, que vous avez une cravate verte. Je pense que c'est en référence à la Légion étrangère.
Oui, elle est d'ailleurs martelée de petites grenades à cette fois.
Ah,
Très bien. Je l'avoue, c'est une coquetterie.
Non, mais c'est, je vous en félicite. Et puis, ça me fait penser à la couleur verte des pistaches, parce que la pistache, c'est quand même le premier producteur mondial des pistaches, c'est l'Iran.
Qui sont exceptionnels.
Qui sont exceptionnels, absolument.
On les trouve sur le bazar, là, de manière
absolument. Donc, je rappelle aux auditeurs le thème de cette émission. Donc, c'est au micro, c'est Michel de Rostelan. Cette émission, c'est notre cher Liban, victime du conflit israélo-iranien, avec... en direct et par ordre alphabétique, le colonel Alain Corvez, directeur d'un cabinet de conseil en stratégie internationale, maître Elie Atem, avocat libanais, docteur en droit, le colonel Jacques Hogard, légionnaire, ancien officier des forces spéciales, le lieutenant-colonel Jean Larmande, secrétaire général de la Société française de géopolitique. Et puis, mon émission a commencé évidemment par mon invité permanent, qui s'appelle Jean de La Fontaine, et qui nous a fait offrir une très belle fable, dont je vous donne les références. Non, je ne les ai plus. Mais, enfin voilà, c'était les pigeons et les vautours, voilà.
Fable 8 du livre 7.
Oui,
fable 8,
fable
du,
8
livre 7.
Du livre 7, voilà, voilà la référence de Jean de La Fontaine. Mais Jean de La Fontaine est magnifique parce qu'il illustre chacune de mes émissions depuis maintenant 23 ans, je crois. Je m'en réjouis. Et paradoxalement, il est plus connu, il est plus apprécié, il est plus appris même en Afrique qu'en France aujourd'hui.
Et pourtant, c'est un des plus grands écrivains de langue française.
C'est le plus français des
fables. En quelques mots, un jour sur ses longs pieds allait je ne sais où le héron au long bec emmanché d'un long cou. Mais il décrit l'animal. C'est merveilleux. Et toutes ces phrases sont ciselées comme
absolument,
ça. C'est un très, très grand écrivain.
C'est le plus français des écrivains. Et c'est peut-être la raison, c'est peut-être la tristesse, justement, de ces jours qui fait qu'on apprend plus, on apprend beaucoup moins La Fontaine en France qu'à l'étranger. Et peut-être que la France ne mérite pas l'image qu'elle continue d'avoir, Dieu merci, à l'étranger, mais qui surpasse la réalité. Mais je ne sais pas ce qu'en pense notre ami libanais maronite ici présent. Qu'est-ce que vous pensez de la France d'aujourd'hui ?
Bah écoutez, comme je vous l'ai dit, je vous dis en toute franchise, je suis déçu de cette nouvelle génération de Français qui renie son histoire, qui renie son identité, qui renie le fait de la catholicité de la France. Et quand je dis, mais la France est un pays catholique, ben, on baisse la tête, il ne faut pas le dire. C'est cet excès de laïcité qui a détruit la France. Il y a une sorte de formatage dans cette nouvelle génération.
Comme le disait le colonel, plutôt actuellement les lumières que le ciel.
Exactement. Ouais. Et puis il y a une autre chose aussi à laquelle je suis très attaché et que je rends hommage ici sur votre antenne.
C'est le Liban qui parle, hein, chers amis auditeurs.
Tout à fait, c'est le Liban, et en particulier c'est la francophonie aussi. Vous savez que j'étais très proche de feu Boutros Ghali, le
secrétaire général. Absolument, je sais que vous avez été même son conseiller.
Son conseiller, fait, oui. Exactement, qui était secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et on rêvait que la France et que le français puissent reconquérir sa place dans le monde. Et qu'est-ce qu'on voit ?
Mais je rappelle que l'ex-remarquable archiduc Otto de Habsbourg, qui était un très très lié au cercle Renaissance, soulignait que le français devait être la langue de référence pour le Parlement européen parce que le plus proche de la latinité.
Exactement. Et puis même du grec. Mmh. Et même du grec, vous savez, la philosophie de la langue française est très proche de la philosophie grecque.
Alors on peut dire que Radio Courtoisie a du boulot, hein.
Ah bah écoutez, il y a du boulot et je dirais c'est un devoir pour nous de sauver, et je parle d'un sauvetage de la langue française, parce que déjà les Français, et je le dis en toute franchise, c'est parce que j'aime la France et j'aime les Français, c'est pour ça que je m'énerve et c'est la raison pour laquelle que je suis vraiment désolé de voir cette France tomber jusqu'à je ne sais pas quel stade, en perdant en fait toute son identité culturelle, parce que la langue c'est un ciment culturel, comme également l'histoire, la religion, la catholicité. Renoncer à cela, il y a une défrancisation qui a été faite progressivement, une déchristianisation. On parle aujourd'hui d'une islamisation de la France et je dis non. C'est une déchristianisation de la France. Et ce qu'on voit, c'est l'effet d'un autre phénomène qui est celui de la mondialisation, qui a détruit de plus en plus la France, qui a ouvert les frontières obligatoirement, on a obligé, et ce sont les mêmes qui ont obligé les Français à ouvrir leurs frontières, qui aujourd'hui mettent de l'huile sur le feu pour parler d'une islamisation et créer une guerre civile en France. Alors au lieu de travailler, de retourner vers les sources, faire revivre la culture française, l'identité française, affirmer l'appartenance de la France à son histoire, à le rôle que doit reprendre la catholicité en France, et c'est la façon par laquelle on sauve le pays, et en sauvant sa culture, on sauve également sa langue. On parle correctement le français.
Écoutez, je suis très heureux d'entendre un Libanais défendre la France. Ça fait vraiment plaisir. C'est...
Mais ils sont français, finalement.
Ils sont français, bien sûr. Mais bien sûr,
nous sommes plus royalistes que le roi, pour les raisons dont je parlais tout à l'heure. C'est que quand même, nous sommes liés, en particulier, comme vous le savez, ma famille, au roi de France, depuis Saint-Louis jusqu'aujourd'hui.
C'est magnifique. Colonel Corvez, vos impressions en regard de ce que vient de souligner Maître Eliatem?
Je bois du petit lait. Je suis tout à fait d'accord avec ce discours. Et je pense que nous sommes à un moment charnière de l'histoire de l'humanité. Tout indique que nous basculons dans un nouveau monde, dans la douleur et dans la souffrance, avec des crimes odieux et horribles. Mais il est évident que l'Iran va gagner cette guerre contre le mal, associer les États-Unis et Israël, et qu'on voit bien que les dirigeants, si on les américains ou israéliens, si on les étudie, ils cherchent une porte de sortie à peu près honorable.
Au moins les États-Unis.
Au moins les États-Unis.
Pas forcément Israël.
Israël n'a pas montré pour le moment, parce que Israël est acculé, donc il reste... Il est encore plus dangereux qu'avant parce qu'il pourrait, on parle de l'option Samson, c'est-à-dire Samson qui a fait s'écrouler le temple sur lui-même. C'est la solution du suicide. Et donc, ils ont l'arme nucléaire, effectivement. Donc, il y a un risque qu'ils puissent dire, on va disparaître. Parce qu'effectivement, c'est tous les événements qui se produisent en ce moment, la défaite des États-Unis dans cette guerre contre l'Iran, ça devrait entraîner automatiquement la disparition de l'État d'Israël qui, comme on l'a dit, n'a pas de raison logique et rationnelle d'exister. Et donc, on est en train de basculer. Les monarchies du Golfe ont commencé à prendre des contacts avec la Russie, avec la Chine, parce qu'ils ont compris que les bases américaines ne les protégeaient pas, mais qu'au contraire, c'était une source d'ennui pour eux. Et ils se disent qu'il leur faut un tuteur, parce que les monarchies du Golfe ne s'appuient pas sur la volonté populaire de leur population. Donc, elles ont besoin d'un tuteur pour maintenir leur gouvernement. Et ils se disent que maintenant, il faut que ce soit ou la Russie, ou la Chine, ou peut-être l'Inde. Quoique l'Inde a un rôle très ambigu et même elle va devoir payer certainement ses amitiés avec Israël juste avant le 28 février. Mais donc, on est à un moment de basculement où le monde ne va plus être ce qu'il était. Je pense qu'aux États-Unis, il va y avoir des conséquences énormes à l'intérieur parce que l'échec va être consommé et la population qui était déjà, dès le départ, hostile à cette guerre va se manifester. Il y a des structures politiques aux États-Unis. J'ai beaucoup d'informations qui me viennent des États-Unis qui s'agitent et qui cherchent une porte de sortie que le président Trump et Pete Hegseth, on pourrait en parler aussi longtemps de celui-là, il a été désigné par Israël pour être le ministre de la Défense, le ministre
curieux,
de la guerre.
Oui, c'est un journaliste,
C'est un nationaliste américain, américain.
Oui, mais israélien. C'est pas un militaire, c'est même pas.
Il a paraît-il servi un peu aux forces spéciales américaines.
Ah bon,
mais
je croyais que c'était un présentateur de télévision.
Qui s'est reconverti complètement après dans le journalisme, mais un journalisme militant.
En tout cas, il est certain que les forces politiques aux États-Unis s'inquiètent beaucoup parce qu'elles voient que la défaite s'approche. Il va falloir que Trump est capable de dire j'arrête la guerre, oui. On a gagné, on a tout détruit, et puis les Iraniens, c'est quand même un grand peuple, oui. Donc on va faire ami-ami avec eux. Oui. Et voilà, il est tout à fait capable de sortir
un discours
comme ça. Et je pense que c'est vers ça qu'on se découle. Mais le problème, c'est Israël, qu'effectivement, Colonel Hogar a raison. Il a l'arme atomique et il peut dire. Bon, ben j'ai tout perdu, ben, puisque j'ai tout perdu, moi je bombarde l'Iran avec des bombes atomiques. Et là, ça serait une catastrophe, parce qu'évidemment...
Il a d'ailleurs l'arme atomique d'une façon assez curieuse, puisque officiellement oui, il ne l'a pas. Oui. Mais en réalité, il l'a fait en liaison avec l'Afrique du Sud autrefois.
Et peut-être un peu nous aussi.
La France et
nous
aussi. Je crois que leurs avions utilisaient beaucoup l'Afrique du Sud pour faire leurs essais.
Oui, mais on les a aidés dans leur programme nucléaire, et c'est De Gaulle qui l'a arrêté lorsqu'il est arrivé au pouvoir.
On n'a pas aidé également aux Irak à un moment ?
Oui, bien sûr.
Alors, je voudrais revenir au Liban, parce que c'est quand même le sujet de notre émission, notre cher Liban, victime du conflit israélo-iranien. La France a une mission particulière, et le Liban, c'est une réciprocité. Je pense en particulier au fait que la diaspora libanaise est extrêmement importante dans le monde entier, et en particulier, elle était très importante dans les pays francophones d'Afrique autrefois, où elle était très présente, et elle était supplantée au fil du temps, à la fois par les États-Unis... et par la Chine, voire même par la Russie. Et je pense en particulier à toute l'ancienne AEF et AOF, où les Libanais étaient vraiment les moteurs de l'économie locale.
Ils le sont toujours.
Ils le sont toujours.
Et il faut savoir que la majorité des Libanais qui gèrent l'économie des pays de l'Afrique francophone, mais également anglophone, en partie, mais beaucoup l'Afrique francophone, la majorité, ce sont des chiites. Oui. Et ces chiites sont tournés vers la France.
Mmh. Et ils sont très francophones.
J'ai des contacts avec eux, mais je sais, par exemple, que dans certains pays, le président du de Côte d'Ivoire, le président de Guinée, le président... Il prend jamais une décision sans consulter
la communauté libanaise. D'une certaine manière, ce sont les défenseurs de la présence française également.
Il faut s'appuyer sur eux.
Non, mais comme actuellement, il y a quand même un appétit féroce de la part de certaines puissances du monde à l'égard de l'Afrique, il faut dire ce qu'il y a, en particulier la Chine. Oui. Il est évident que tout ce qui consolide la présence française en Afrique est important.
Les Libanais en Afrique se fondent dans le paysage local depuis tellement longtemps. Ils font partie de ces États africains.
Puis c'est la défense de la francophonie.
Et c'est la francophonie. Et bien sûr qu'on a un lien particulier avec eux. Donc ça c'est la réalité d'aujourd'hui. Mm-hmm. Les Chinois ne savent pas faire.
Oui. Ils importent payent. À la fois du personnel et du...
Oui, et qu'ils laissent d'ailleurs. Ils laissent du personnel de qualité morale, je dirais, douteuse. Mais... Mm. Et les Russes ne savent pas faire non plus.
Ils n'ont pas la culture de l'Afrique.
Bien sûr, on le voit aujourd'hui au Sahel. Hein. C'est un échec total, en fait. Et bien sûr, alors il y a... Les Iraniens sont toujours intéressés à l'Afrique. Oui. L'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest à cause des chiites. Je te rappelle de notre intervention pour l'imam chiite du Nigeria qui a subi beaucoup de vexations et de brimades.
La bannie.
Mais donc, bien sûr qu'il s'intéresse aussi à la région. Hein, voilà pourquoi au départ les Iraniens ne sont pas nos ennemis.
C'est un aspect important, me semble-t-il, dans les relations franco-libanaises, de souligner également cette présence en dehors des frontières de la France et du Liban, grâce à la diaspora libanaise dans les pays d'influence française, ou d'ancienne influence française. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission, mon colonel Corvez ?
J'espère qu'elle a été éclairante pour nos auditeurs, parce que en fait, il y a une telle propagande. Moi, je l'ai vu directement. Il se trouve que comme je rentrais d'Iran, j'ai été invité sur les trois grandes chaînes. Alors, CNews, il paraît que c'est la chaîne la plus regardée en France, LCI et puis BFM. Et je me suis rendu compte de ce rouleau compresseur de la propagande sur les plateaux. J'étais le seul a donné une
la
idée
vérité.
Différente de ouais. ce qui se passait. Mmh. Et alors, certaines fois, on me coupait carrément la parole, on appelait un correspondant je ne sais où. Pour,
ce qui est bien, voilà. c'est que ce que vous avez évoqué dans l'une des émissions, et à laquelle je souscris tout à fait, vous avez dit que cette défaite va remettre en cause l'existence même et la légitimité de l'entité sioniste, c'est-à-dire ce qu'on appelle Israël en France. Et bien effectivement, et ça nous le regardons donc de près au Liban, et nous, ce que nous espérons, c'est le retour des réfugiés palestiniens qui nous ont causé beaucoup de problèmes parce qu'ils ont déferlé au Liban depuis 1967 et nous espérons une réémigration de la part de toutes ces différentes communautés juives qui sont artificiellement ont été expulsées ou qui sont venues pour occuper la Palestine, qu'ils retournent à leur propre pays et qu'en Occident, qu'il n'y a plus d'antisémitisme pour que ces gens-là, que ces juifs donc, qui sont d'Israël et qui sont d'origine de Français, etc., et d'autres qui viennent et qu'ils vivent en paix dans leur pays d'origine. Ceux qui veulent rester, eh bien qu'ils coexistent avec les différentes communautés, comme l'était d'ailleurs la Palestine avant, avec des chrétiens, des musulmans, des druzes, et puis les autres avant bien le Yishuv.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Maître Eliatem. Je reviens à cette propagande qui est démentielle. Et en plus, quand vous allez dans les locaux de ces trois grandes chaînes, vous vous rendez compte de l'argent qu'il y a. Parce que c'est énorme. Et donc, c'est de l'argent, c'est la finance internationale qui finance cette propagande. Et sur les plateaux, il y avait sur une des chaînes un Libanais qui était là, mais qui était pro-israélien à fond. Et il ne représente pas la communauté libanaise quand même. Il y avait des iraniennes qui étaient contre leur pays, qui applaudissaient au fait qu'on bombarde leur propre pays. Et donc, ces gens-là ont droit de parler et de citer sur les grandes chaînes de télévision comme si c'était la majorité des Iraniens souhaitaient qu'on écrase sous les bombes leur pays, comme si le Liban était content de voir que le Hezbollah était ravagé par les bombes israéliennes.
Mais c'est la même chose, c'est que si j'emmène quelqu'un de pro-Macron sur une chaîne libanaise, je dis voilà le point de vue des Français, alors qu'il est désapprouvé par une large majorité des Français.
Voilà, écoutez mes chers amis auditeurs, je vous avais promis une émission difficile, une émission sur un sujet compliqué, comme l'Orient l'est, bien sûr. Mais en tous les cas, cette émission a eu le mérite de souligner quand même les liens indéfectibles entre la France et le Liban. C'était l'objectif initial sur le thème « Notre cher Liban, victime du conflit israélo-iranien ». Eh bien, écoutez, mes chers amis, j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 4 semaines pour une émission sur un tout autre sujet, bien évidemment. À très bientôt. Merci.
Dans le Libre Journal de Michel de Rostolan, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 16 mars 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.